Cavall Calage.
Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'émission Les Écolos en Cavalcalade sur Radio Calade. Vous êtes sur Radio Calade 100.9 FM. Alors bonjour Mathieu.
Et bonjour Élodie.
Notre émission d'aujourd'hui sera sur la thématique de l'énergie. Et pour parler d'énergie, quoi de mieux que de recevoir des shifters? Donc nos invités sont
Thomas, ingénieur lyonnais, spécialité dans les sujets de transport et passionné par les sujets un peu énergie-climat. Voilà. Et ben, membre du groupe local lyonnais des shifters.
N'oublions pas.
Et Nicolas Todorovic, ingénieur aussi de formation, passionné par les enjeux énergie-climat. J'aime beaucoup particulièrement vulgariser ces enjeux-là. Donc merci de nous donner l'occasion de sortir un peu de nos cercles habituels. Et je suis aussi membre du groupe lyonnais.
Eh bien, écoutez, merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Alors, on va attaquer tout de suite. Je vais vous donner le déroulé de l'émission. En première partie, quelques infos d'actualité. On va parler local, on va parler national. Je vous inviterai à réagir. Et en deuxième partie, on va parler d'énergie, on va parler des shifters, on va parler aussi de vos projets, des actions menées. Alors, on va attaquer par une première info locale que j'ai eue fraîchement ce matin par Benoît Froment, qui est élu à l'urbanisme au grand projet urbain pour la ville de Villefranche et qui m'a donc annoncé que la ville de Villefranche avait remporté un appel à manifestation d'intérêt. Alors il s'agit d'être lauréat pour l'écoquartier qui se situe à Montplaisir pour expérimenter une nouvelle méthode pour calculer l'empreinte carbone et énergie dans les quartiers et dans les écoquartiers. Quelle est cette méthode? Alors, cette méthode, c'est Efficacity qui la propose et qui a lancé le projet Énergie plus Carbone moins pour développer cette méthode dans le quartier Énergie Carbone en 2018. Donc, le projet est coporté par l'ADEME, par le comité de pilotage du ministère de la Transition écologique et de nombreuses autres associations et partenaires. La méthode, elle repose sur le développement et l'utilisation d'un tout nouveau logiciel qui s'appelle Urban Print. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler?
Première fois pour moi.
Première fois aussi.
Oh, il en faut une. Donc Urban Print, qui se veut un outil d'aide à la décision. C'est un logiciel qui modélise l'empreinte carbone des projets en analysant le cycle de vie global, donc ACE, à travers le traitement de données croisées. Donc à travers la construction des bâtiments, la mobilité, la consommation d'énergie en exploitation, la gestion des déchets et puis l'usage des espaces publics. Donc voilà, quelques villes ont déjà adopté cette nouvelle méthode. On a le parc d'activité de Saint-Denis-Aubervilliers à Paris, Atlantec, le quartier tech bas carbone de La Rochelle, ou alors EcoCity Euroméditerranée qui se situe au cœur de Marseille. Des réactions sur ces nouveaux logiciels qui permettent d'avoir une meilleure vue plus globale?
Je pense que c'est vraiment un des outils les plus intéressants. En fait, je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est même d'où vient cet intérêt en fait de calculer le carbone. En fait, pourquoi c'est important de s'intéresser à ces sujets d'empreintes et de d'impact finalement sur l'environnement, que ce soit pour des projets de particuliers, des collectivités, des projets industriels. C'est parce que ça modifie notre environnement. Et parce que ça le modifie, c'est important de savoir à quels ordres de grandeur on est capable d'impacter notre environnement. Parce que ça ne vous a pas échappé qu'on est maintenant presque 8 milliards sur Terre. Et donc, on ne peut plus transformer l'environnement comme on le faisait il y a 200 ans. Parce qu'on commence à ressentir dans nos quotidiens les conséquences du dérèglement climatique. Et donc, à l'échelle individuelle, ça consiste par calculer où sont les postes de dépenses, les postes de pollution carbone, on peut appeler ça comme ça, pour savoir comment,
comment faire des économies.
Exactement, et partager les efforts.
C'est ça, et en particulier dans le secteur du bâtiment, qui est un des secteurs les plus émissifs en France, faut rappeler, en particulier à cause du chauffage individuel.
Oui.
Donc pouvoir faire des économies, c'est de la sobriété en fait finalement,
oui.
Réduire les dépenses avec de l'isolation, avec des matériaux qui sont moins impactants sur l'environnement, ça permet de réduire nos empreintes globales au niveau national et au niveau personnel aussi, quand c'est des projets particuliers.
D'accord. Une information un petit peu plus nationale. Alors là, j'ai pris mes sources dans l'article du 16 février 2022. On va parler d'hydrogène. Et je sais que c'est un sujet que vous aimez beaucoup. En tout cas, vous aurez des choses à dire. Donc l'hydrogène, c'est quoi ? C'est 95% de l'hydrogène est produit dans le monde est issu des énergies fossiles, comme le gaz naturel, qui est fortement émetteur de CO2. Donc l'hydrogène vert, quant à lui, il est produit à partir d'eau et d'un courant électrique généré par des éoliennes ou des panneaux solaires. Je cite l'article, hein, je prends mes sources. Utilisé comme combustible, il n'émet que de la vapeur d'eau. Donc l'objectif, décarboner un secteur très polluant comme l'industrie et les transports lourds, atteindre ses objectifs pour 2050, parce qu'on est ambitieux, monsieur. L'hydrogène vert peut être stocké en très grande quantité avant d'être converti en électricité. Le défi, c'est quoi ? C'est baisser les prix. 5 euros le kilo pour l'hydrogène vert, 1,50 euro le kilo pour l'hydrogène gris. L'hydrogène vert, le projet spectaculaire, on en parle, celui d'Airbus peut-être, qui prévoit de faire voler d'ici à 2035 un avion zéro carbone. Quelle ambition! Et puis, ben, pour refaire dans le local, on a la région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que la région Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, l'Occitanie, qui ont passé commande à Alstom pour 12 rames hybrides électriques hydrogène. Et ce, pour 190 millions d'euros, avec une mise en service pour 2025. Vos réactions ?
Alors, sur l'hydrogène, il y a plein de choses à dire. La première chose, c'est qu'on ne peut pas dire que ce soit zéro carbone, puisqu'à partir du moment où on consomme, que ce soit de l'électricité ou des énergies fossiles, on émet du carbone indirectement. En France, on a la chance d'avoir une électricité très bas carbone à cause du nucléaire. Donc, c'est considéré comme 6 grammes de CO2 par kilowattheure. Pour donner un ordre de grandeur, l'éolien ou le photovoltaïque, on est sur quelques dizaines de grammes, quand les énergies fossiles sont à plusieurs centaines de grammes par kilowattheure. Donc ça, c'est pour redonner. Donc, il n'y a pas de zéro carbone parce qu'on utilise de l'électricité pour produire notre hydrogène. Ensuite, l'autre point qu'il faut avoir en tête, c'est que l'hydrogène, il y a une perte entre le moment où il est fabriqué et entre le moment où il est consommé. Et cette perte, elle est de plus de 50%. Donc, c'est-à-dire qu'on ne récupère pas toute l'énergie qu'on aura stockée sous forme d'hydrogène. C'est pour ça que ça pose un problème, et autant utiliser l'électricité directement sur les eaux plutôt que de la stocker pour la réutiliser plus tard.
Ok.
Donc, voilà pour les grandes lignes. Ensuite, sur les deux grands projets qu'on a parlé, je trouve ça intéressant parce qu'on parle de l'aviation.
Oui.
L'aviation aujourd'hui, c'est un secteur qui est extrêmement décrié de par l'impact qu'il a sur le climat. Et un avion d'ici 2035, ça sera très peu par rapport au nombre d'avions qui sont actuellement en circulation et par rapport à l'impact que ça a. Donc en fait, il y a une partie de greenwashing un peu là-dedans, pour mettre en avant ces projets un peu gigantesques, enfin, qui font belle allure, mais qui n'ont que très peu d'impact à court terme sur nos émissions carbone.
C'est un petit pas, un tout petit pas.
Voilà, c'est pour l'instant, malheureusement, sur l'aviation, on n'a pas trop d'autres solutions que de réduire, en tout cas pour le moment, avant de pouvoir développer à grande échelle, peut-être, des solutions qui seraient un peu plus vertueuses que l'usage d'énergie fossile.
D'accord.
C'est un sujet qui peut mériter des jours et des jours de discussion et de multiples thèses. Et d'ailleurs, s'il y a des informations qui ne sont pas correctes ce soir, on est preneur de corrections, hein, sur les ordres de grandeur ou sur les chiffres. Je pense que pour réagir en moins d'une minute sur ce sujet-là, ce qui est important selon moi en tant que shifter et bénévole et récemment formé à ces enjeux, c'est d'essayer de démystifier le rêve que ça entretient finalement. Parce que on a l'impression que c'est toujours cette course, il va suffire de faire confiance aux ingénieurs pour trouver une solution qui vont nous permettre de maintenir nos modes de vie actuels sans devoir changer de comportement, d'habitude de consommation, de façon de nous déplacer. Or, il y a de plus en plus de preuves qui convergent vers le fait qu'aujourd'hui, à la fois parce que les ressources s'épuisent, s'appauvrissent, et aussi pour respecter nos engagements climatiques, on ne va pas pouvoir garder nos modes de vie tels qu'ils sont aujourd'hui. Et donc, les projets un peu phares, comme tu disais Thomas, sur l'avion à hydrogène, ça entretient ce mythe des Occidentaux qui vont pouvoir continuer à se déplacer et à polluer, alors qu'il faudrait que tout le monde fasse sa part et s'interroge sur ses habitudes de consommation.
Un dernier mot sur le deuxième projet qui a été abordé, qui est celui des trains. Pour le coup, qui est là peut-être beaucoup plus pertinent, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a de nombreuses lignes qui sont non électrifiées, et sur lesquelles ce sont des rames diesel qui circulent. Et donc, le fait de remplacer ces rames diesel par des rames à hydrogène permettrait de garder l'autonomie à ces trains et de ne pas avoir à électrifier ces lignes, ce qui coûte extrêmement cher, en fait, l'électrification. Donc, on a un faible trafic. Mettre des rames qui fonctionnent sur hydrogène, c'est toujours plus pertinent que de garder des rames diesel.
D'accord. Bah écoutez, merci pour vos apports d'informations. Et si on se faisait une petite pause musicale, qu'est-ce qu'on a choisi ? Alors, qu'est-ce que vous nous avez choisi pour l'émission ?
Et bah pour le titre, on a choisi L'odeur de l'essence d'Orelsan.
Je crois que ça tombe bien.
Puisqu'on était totalement dans la thématique.
Très bien, bah allons-y.
Nostalgie leur fait miroiter la grandeur d'une France passée qu'ils ont fantasmée. L'incompréhension saisir ceux qui voient leur foi dénigrer sans qu'ils aient rien demandé. La peur les persuade que des étrangers vont venir dans leur salon pour les remplacer. Le désespoir leur faire prendre des risques pour survivre là où on les a tous entassés. La paranoïa leur faire croire qu'on peut plus sortir dans la rue sans être en danger. La panique les poussait à crier que la terre meurt et personne en a rien à branler. La méfiance les excitait, dire qu'on peut plus rien manger, qu'on a même plus le droit de penser. La haine les faire basculer dans les extrêmes. Allumer l'incendie tout enflammé.
L'odeur de l'essence. L'odeur de l'essence.
Les jeux sont faits, tous nos leaders ont échoué. Ils seront détruits par la bête qu'ils ont créée. La confiance est morte en même temps que le respect. Qu'est-ce qui nous gouverne, la peur et l'anxiété? On s'auto-détruit, on cherche un ennemi. Certains disent c'est foutu, d'autres sont dans le déni. Les milliardaires lèguent à leurs enfants débiles. L'histoire appartient à ceux qui l'ont écrite. Plus personne écoute, tout le monde s'exprime. Personne change d'avis que des débats stériles. Tout le monde s'excite parce que tout le monde s'excite. Que des opinions tranchées, rien n'est jamais précis. Plus le temps de réfléchir, tyrannie des chiffres. Gamin de 12 ans dont les médias citent les tweets. L'intelligence fait moins vendre que la polémique. Battle Royale, c'est chacun pour sa petite équipe. Connard facho, connard hystérique. Tout est réact, tout est systémique. Dès qu'un connard fait quelque chose de mal quelque part, le monde entier devient susceptible. Les coupables sont d'anciennes victimes. Le cercle du mal jamais fini. Tout dégénère, tout est cyclique. Pas de solution, que des critiques. Tout le monde est sensible, tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Sensible, sensible, sensible. Tout est sensible. Tout le monde est sur la défensive. Sujet sensible, personne sensible. Tout le monde baisse, tout le monde veut faire le petit train. Une discussion sur deux, c'est quelqu'un qui se plaint. Pendant que le reste du monde souffre pour qu'on vive bien. Les parents picolent, c'est les enfants qui trinquent. Accident de bagnole, violence conjugale. L'alcool est toujours à la racine du mal. Rien rempli, plus l'hôpital et le tribunal. On n'assume pas d'être alcoolique, c'est relou d'en dire du mal. On prend des mongols, leur donne des armes. Appelle sa justice, s'étonne des drames. Pris dans un vortex infernal. On soigne le mal par le mal et les médias s'en régalent. Que des faits divers, pour le renard vipère. Soit t'es pour ou soit t'es contre, tout est binaire. Les gratteurs de buzz flirtent avec les extrêmes. Depuis que les mongols sont devenus des experts. Entourés de mongols, l'empire mongol. On fait les mongols, pour plaire aux mongols. On va tomber comme les mongols. Comme les égyptiens, comme les romains, comme les mayas, comme les grecs. Faut qu'on reboot, faut qu'on reset. On croit plus rien, tout est deepfake. Face à connu dans le rejet, mélange de peur, haine et tristesse. Nos contradictions, nos dilemmes. Corrompus, je suis né dans le système. Personne avance dans le même sens, tout est inerte. On voit qu'une seule forme de richesse. Prendre l'argent des gens, c'est voler, sauf quand c'est du business. Génération Z, parce que la dernière, ça se voit clairement qu'on n'a pas connu la guerre. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Youtubeur fasciste, pseudo subversif. Voilà ce qu'on a quand on censure les artistes. Rien n'avance jamais, nombreux se radicalisent. En manque de repères, ils se perdent dans la nostalgie d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques d'une époque. D'autres étaient déjà nostalgiques d'une époque où d'autres étaient déjà nostalgiques d'une époque où. Putain, les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Si le président remporte la moitié des voix, c'est que les deux tiers de la France en voulaient pas. Pas besoin de savoir c'est quoi le Sénat pour voir que les vieux riches font les lois. Personne aime les riches jusqu'à ce qu'ils deviennent. Ensuite ils planquent leur argent au flip de le perdre. Tellement taf de merde, fais semblant de le faire. Combien de jobs servent juste à satisfaire nos chefs. Nourris au jugement, nourris au cliché. Alors qu'on sait même pas se nourrir, on se bousille. On sait pas gérer nos émotions.
émotions, donc on les cache. C'est pas gérer nos relations, donc on les gâche. Assume parce qu'on est, donc on est lâche. On se pardonne jamais dans un monde où rien s'efface. On se crache les uns sur les autres, on sait pas vivre ensemble. On se bat pour être à l'avant dans un avion qui va droit vers le crash.
La cavalcade.
Toujours dans l'émission Cavalcalade 100.9 FM sur Radio Calade avec nos invités Thomas Vino et Nicolas Todorovic. Voilà, des shifters lyonnais qui sont venus nous parler d'énergie.
Et du coup, c'est quoi un shifter ?
On va y venir. Et pour expliquer ce que c'est un shifter, il faut expliquer ce que c'est le Shift Project.
Oui.
Et pour expliquer ce qu'est le Shift Project, on va expliquer un peu l'origine de leur création.
Oui.
En fait, eux, le constat, c'est qu'on a une double problématique aujourd'hui, une problématique énergétique et une problématique climatique, et qui vont de pair, en fait. La première problématique énergétique, c'est qu'aujourd'hui, plus de 80% de notre énergie au niveau mondial, elle provient des énergies fossiles, c'est-à-dire le gaz, le pétrole, le charbon. C'est fossile, ça va arriver au bout d'un moment à finition, en fait, c'est pas infini. Et on a déjà passé le pic pour certaines de ces énergies, en particulier le pétrole conventionnel qu'on a passé en 2008 au niveau mondial. Donc on est déjà en déclin sur le pétrole conventionnel. Donc de ce fait, on va devoir trouver des alternatives énergétiques pour pouvoir poursuivre nos modes de vie, en tout cas pour pouvoir continuer à faire tourner les machines qui nous font vivre actuellement. Cette réduction, certains pourraient voir là une transition énergétique. Seulement, ce qu'on regarde actuellement, c'est que toutes les nouvelles énergies qu'on utilise, elles se superpositionnent, elles ne se remplacent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle d'énergie d'éolienne, de photovoltaïque, ça ne remplace pas de l'énergie qui est déjà utilisée, du pétrole ou du charbon. Ça se rajoute juste en plus, c'est l'énergie qui est consommée en plus.
D'accord. Voilà.
Donc l'idée, c'est comment on arrive à pouvoir supprimer toutes ces énergies fossiles de nos habitudes.
Oui, c'est exactement ça. La création du Shift Project en 2010 à peu près, essayer de traiter de manière opérationnelle pour un ensemble de décideurs et de personnes qui se posent ces questions pour le business, dans l'économie en général, et puis pour creuser les thématiques même sur le point de vue théorique, avec vraiment ce qu'on appelle la double contrainte carbone. C'est exactement ce que Thomas vient d'expliquer. C'est à la fois pour respecter nos engagements climatiques, il faudrait laisser une bonne partie des ressources fossiles dans le sol, parce qu'elles émettent une quantité considérable de gaz à effet de serre. Et la deuxième grande raison, c'est qu'en fait, on est en train de s'apercevoir qu'on est sur les plateaux de production de l'ensemble de ces énergies. Et alors, je crois qu'il y a encore débat au sein des experts sur les crises économiques qui ont fait suite à des crises de l'offre de pétrole. Mais on sait que pétrole et économie sont intimement liés. Et donc, c'est vraiment cette interaction-là qu'il faut étudier. Et c'était un peu à la racine du projet du Shift.
C'est ça. Donc il y a des problématiques économiques, techniques et écologiques. Et à partir de là, il peut y avoir des possibilités...
Énormes. Il peut y avoir plein de choses. Et donc le Shift, en fait, le principe du Shift, c'est une association dans laquelle il n'y a pas de bénévoles. Ils n'ont que des personnes qui travaillent à plein temps pour réfléchir et proposer des solutions pour justement se résoudre ces problématiques énergétiques et climatiques en même temps. Là-dessus, ils travaillent sur toutes les thématiques. Ça va être le transport, ça va être le logement, ça va être l'industrie, ça va être la nourriture, enfin vraiment toutes les thématiques, et pour essayer de proposer des solutions et d'amener dans le débat public ces sujets-là. Une des actions les plus importantes qu'ils ont fait ces derniers temps, c'est le plan de transformation de l'économie française. C'est un projet qui traite 12... tous les secteurs de l'économie française, en fait.
Il y a une quinzaine de secteurs, ouais.
Une quinzaine de secteurs, et c'est quelque chose qu'ils ont financé via un financement participatif sur lequel ils ont récolté plus de 500 000 euros. Et pour faire justement tout ce travail qui a duré plus d'un an et demi, et je sors aujourd'hui justement le livre qui résume toutes les propositions sur quelles sont les modifications à faire dans chaque secteur pour pouvoir se passer au plus vite des énergies fossiles et respecter nos engagements climatiques.
C'est vraiment le livre d'actualité, puisqu'on le voit sur tous les plateaux télé, on voit l'introduction du PTEF, l'appeler comme ça. Et donc, ce qui est une belle proposition qui tombe à pic, si je peux me permettre, qui tombe vraiment à point nommé, et puis c'est des solutions, en fait. C'est ça qui est vraiment intéressant.
C'est des solutions concrètes
Exactement. C'est vraiment comment, d'ici 2050, se passer de l'énergie fossile. En fait... sur les plateaux télé, on voit beaucoup Jean-Marc Jancovici, qui est le président du Shift Project, et qui justement montre, qui apporte ses solutions. C'est lui et son équipe qui ont travaillé dessus. Et typiquement, c'est, on va prendre un sujet que je connais bien, la mobilité du quotidien. Comment faire d'ici 2050 pour atteindre nos objectifs? Ça va être réduire la part de la voiture, augmenter le transport collectif, réduire les distances domicile-travail, favoriser les mobilités actives. Toutes ces choses qui sont soutenables, qui peuvent être souhaitables et qui ne nous demandent pas de grands sacrifices pour autant.
J'ai noté aussi un grand effort de vulgarisation, en fait, du langage scientifique, ce qui est très important.
Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que c'est facile à lire?
Voilà, voilà.
Parce que
la version écrite du, en tout cas, le livre qui est sorti là en début d'année est effectivement plus digeste que l'ensemble des rapports intermédiaires qui sont sortis thématique par thématique pendant les deux ans où a duré la recherche sur ce plan de transformation de l'économie française, le PTEF. Ça suggère en tout cas un certain nombre de pistes que le futur gouvernement pourrait mettre en place dès cette année 2022 pour s'aligner. Alors si je reprends la question exacte, c'est que faut-il faire pour mettre l'économie française en cohérence avec une baisse des émissions planétaires de 5% par an qui soit compatible avec les engagements climatiques tout en permettant à chacun et à chacune de trouver un emploi. Donc c'était vraiment ça l'ambition du PTEF.
Quel est le nom, je crois, de la bande dessinée qui est sortie avant le PTEF?
Un monde sans fin.
Voilà.
Un monde sans fin qui a été réalisé par Jean-Marc Jancovici et Marc Blin.
Christophe Blin.
Là, on est sur vraiment de la vulgarisation. C'était vraiment une bande dessinée qui était accessible au plus grand nombre.
Exactement.
C'était d'ailleurs une très très bonne introduction pour ceux qui découvrent les sujets sous la forme d'une bande dessinée. Finalement, on sous-estime vraiment le support et l'impact que peut avoir même encore aujourd'hui en 2022 une bande dessinée qui est en deux grandes parties sur l'énergie et le climat. Et en rupture encore peut-être aujourd'hui, j'ai pas les dernières infos, mais peut-être encore en rupture, et qui permettent d'avoir un bon premier pied dans ces sujets.
Ok. Les shifters, parlez-nous de vous.
Et donc, ce qu'on a dit, c'est que le Shift, ils n'ont pas de bénévoles dans le Shift Project. En fait, pour avoir des bénévoles, ils ont une association qui est à côté, qui s'appelle les Shifters. Et les Shifters, ça réunit tous les bénévoles au niveau national qui viennent en soutien au Shift Project, donc pour promulguer leurs idées, pour les aider sur des thématiques en particulier. Et c'est plusieurs milliers d'adhérents, les Shifters. Il existe des groupes locaux, et nous, on fait partie du groupe local lyonnais. Donc on a plusieurs actions en fait, on a des actions au niveau national qui sont menées à l'échelle de la France, donc ça peut être des actions du type Shift Your Job qui est une plateforme pour trouver un emploi qui va dans ce sens-là sur les engagements énergétiques et climatiques, ça va être de l'organisation d'événements, ça va être faire de la promotion de certaines actions du Shift. Et puis il y a des sujets plus locaux, donc qui sont menés par les groupes locaux directement, typiquement à Lyon. On est une centaine de membres actifs sur Lyon et les environs. On dit Lyon, mais ça va large, il y a des personnes qui sont jusqu'à Saint-Étienne, qui peuvent être aux alentours.
Et dans le Beaujolais.
Et dans le Beaujolais, totalement. Et là, les actions, ça va être local, ça va être déjà avoir une vie associative, faire des cafés-débats, faire des conférences régulièrement, et puis également se former, en fait, sur ces enjeux-là, avec des ateliers, que ce soit la fresque du climat. Si vous en avez jamais entendu parler, si vous entendez parler à côté de vous, allez-y, vraiment, c'est un atelier qui est super intéressant et qui permet de comprendre en 3 heures. On ne voit pas le temps passer et on comprend tout de A à Z sur ces enjeux-là. Voilà. Une fois qu'on s'est formé, en fait, la dernière partie de nos actions, ça va être agir sur les sujets locaux. Typiquement, on va prendre position sur un sujet particulier, le doublement de la 46 Sud. La 46 Sud, c'est une voie rapide au sud de Lyon. Et il y avait pour projet de doubler le nombre de voies. Seulement, nous, l'objectif, c'était pas de dire oui ou non. C'était de regarder le rapport et quelles étaient les analyses environnementales qui avaient été prises et si elles étaient cohérentes ou non. Pour le coup, elles n'étaient pas cohérentes et il y avait beaucoup d'approximations qui avaient été faites. Donc, c'est de pointer du doigt ces éléments-là. Notre objectif, c'est d'être vraiment factuel. Oui. Et c'est vraiment un point clé de l'association, c'est d'être factuel, de rester dans les sujets, dans les recommandations d'experts.
Oui.
Et voilà, c'est vraiment notre point fort et notre point d'attention.
Oui, le Shift Project et les shifters ne font pas de politique. On est là pour amener un point de vue,
un point de vue
scientifique. Une réaction.
Je hoche la tête, effectivement. Je hoche la tête puisqu'en fait tous ces sujets-là sont éminemment politiques. En fait, le fait de prendre une position pour décrire ce que pourraient être les conséquences de telle ou telle politique publique ou telle action gouvernementale. De se poser des questions, tout simplement. Est-ce qu'on a encore besoin d'avoir un élargissement d'autoroute à tel ou tel secteur? À quels avantages, quels inconvénients sur la biodiversité, l'artificialisation? Qu'est-ce que ça va apporter en plus, finalement? Donc le fait de se poser des questions, c'est éminemment politique. Par contre, peut-être que ce que tu voulais dire, c'était est-ce que c'est partisan au sens de parti politique? Et là, effectivement, il y a une distinction qu'il faut faire, mais qui est assez fine, en fait, puisque finalement, prendre position sur quel avenir souhaitable on essaye de construire avec les ressources dont on dispose et celles qui vont être contraintes, et ensuite est-ce qu'on a les personnes compétentes et formées pour faire ces changements, c'est des discussions qui sont éminemment politiques. Après, on peut critiquer que le spectre politique aujourd'hui ne représente pas vraiment l'état d'avancée de la société civile sur ces sujets-là, mais tous ces sujets sont vraiment politiques.
D'ailleurs, ça fait le lien avec une des actions des shifters et du shift, qui sont l'analyse des programmes politiques.
Oui.
À la fois, donc c'est quelque chose qui est souhaité pour les présidentielles là, mais qui a déjà été fait pour les municipales en amont.
Oui.
Et à chaque élection, essayer de voir un peu ce que propose chaque candidat et quelle est la cohérence scientifique et, par rapport aux problématiques énergétiques et climatiques.
Excellent. Mon petit doigt me parle de l'univers shifté.
Alors, l'univers shifté.
C'est l'université d'été, finalement, de notre association Les Shifters, qui a eu sa première édition en septembre 2021 à Lyon, sur les campus nord de Lyon, qui a rassemblé un peu plus de 1000 personnes sur plusieurs jours.
Superbe.
Et qui avait vocation à vulgariser l'ensemble des chantiers qui étaient en cours à ce moment-là. Et Thomas, tu peux compléter. Et effectivement, on espère être réinvité pour parler de l'édition 2022, qui aura lieu en juin.
Oui. C'était notre premier événement en septembre dernier, qui a eu lieu sur Lyon, et on est en fait actuellement en train d'organiser le prochain, qui aura lieu en juin prochain, donc 25 et 26 juin prochain. On parlera plus en détail, je pense, nos collègues potentiellement le mois prochain. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif, c'est de pouvoir déjà rencontrer des personnes sur ces enjeux-là, de pouvoir discuter, de pouvoir se former. Et c'est aussi, si vous nous écoutez, que vous êtes intéressé, que c'est des choses qui vous parlent, vous pouvez venir, ça vous permet d'avoir un premier pas, de comprendre qui s'intéresse à ça, quels sont les enjeux et d'échanger tout simplement.
Comment partons à la rencontre des shifters? Comment on vous contacte? Comment est-ce qu'on vous rejoint?
Alors, tout simplement, on va sur son navigateur internet préféré, on tape shifter dans la barre de recherche, on tombe sur le premier, on clique sur le premier lien qui doit être le wiki des shifters, et dedans il y a toutes les informations, c'est tout très bien expliqué, et ça c'est un travail qui a été fait 100% bénévolement, et on peut rejoindre les différents groupes locaux, ça peut être les groupes locaux lyonnais, mais ça peut être aussi à Toulouse, à Nantes, ou voir juste le national pour suivre ce qui se passe sur le forum et s'impliquer dans différentes actions, ou simplement juste regarder ce qui se passe et se former de cette manière.
D'accord.
Oui, ce qui est vraiment important, je crois qu'en France, on doit être presque 13 ou 15 000 hein, à peu près.
Ah,
en France, quand même, ça fait quand même du monde réparti sur différents territoires. Ce qui est très intéressant, moi j'ai trouvé, c'est aussi pour ça que moi j'ai rejoint finalement ce groupe-là, c'était l'occasion de rencontrer des gens avec qui on peut discuter de ces enjeux-là, qui aujourd'hui ne sont pas forcément bien traités dans le débat public, prendre le temps de s'informer. En fait, on a très envie d'aller très vite sur des solutions. Toi, Mathieu, tu mentionnais tout à l'heure le mot de solution, et c'est vrai que c'est satisfaisant pour l'esprit de se dire quelle solution on a à un problème, parce que voilà. Mais en fait, si on prend pas le temps de bien poser, de bien comprendre le problème, de bien écouter ce qui se fait, les sujets dont on traite sont éminemment complexes. Ils ont beaucoup d'interactions entre eux, ils sont très compliqués. Ça prend du temps de les détricoter. Il faut aller voir les gens qui connaissent ces domaines-là. Il faut faire confiance aux gens qui ont étudié ces enjeux-là, et de prendre le temps finalement de bien poser encore plus les constats que les solutions. Et si en 30 secondes je peux résumer finalement ce qu'on a un peu dit ce soir, pour vous qui nous écoutez sur la route ou en train de rentrer à la maison, c'est vraiment que la combustion des énergies fossiles est vraiment responsable d'émissions de gaz à effet de serre qui sont massives. Aujourd'hui, on n'a plus aucun doute sur le fait que c'est la cause principale du changement climatique, et que pour ne pas laisser un futur terrible à nos enfants, et même dès cette génération, il faudrait laisser une grande partie des réserves dans le sol, environ 60% de pétrole et 90% de charbon. Et la deuxième raison, c'est que les experts, et nommément l'Agence internationale de l'énergie, pardon, je commence à mélanger mes mots, annoncent que le pic total de production de pétrole devrait être atteint dans le milieu de cette décennie, que les réserves s'amenuisent, qu'on en découvre de moins en moins et que ça coûte de plus en plus d'énergie d'aller extraire du pétrole. Et donc ça, c'est des sujets qu'il faut organiser plutôt que subir ce qui va arriver.
Bah écoute, merci pour cette conclusion. Eh bien, écoutez, les auditeurs, on se retrouve bientôt. Je te remercie, Thomas. Je te remercie, Nicolas. Je vous remercie, les shifters, d'avoir accepté cette invitation.
Merci.
On se retrouve très bientôt. Mathieu, à très bientôt. Les
à
auditeurs,
bientôt.
Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée.
La cabale calade.